Bonjour, mon nom est Michel Pion, vice-président de l'Association humaniste du Québec, et bienvenue au balado humaniste. Aujourd'hui, nous avons le privilège, et je pèse mes mots, d'avoir comme invité Mme Andrea Richard. Pour ceux d'entre vous qui ne la connaissent pas, Mme Richard, ou Andrea, comme elle préfère être appelée, a eu une vie et un parcours absolument fascinants. Andrea est née à Bouctouche, au Nouveau-Brunswick, et a adopté très tôt sa vie de religieuse qui a duré 20 ans, d'abord chez les Petites Sœurs des Pauvres, et ensuite chez les Carmélites. Après une difficile remise en question, elle abandonne la vie religieuse et redevient laïque. Elle est maintenant conférencière et auteure. Elle a publié 7 livres, dont « Femmes après le cloître », qui a été réédité à de nombreuses reprises, « Au-delà de la religion » et « L'essence de la vie », et j'en oublie certainement. « Essence de la vie » a été publié aux éditions du Septentrion, et je vous encourage fortement à le lire. Elle a également reçu le prix Condorcet des Saules du mouvement laïque québécois pour son appui et son militantisme pour la laïcité. Et finalement, on peut s'enorgueillir du fait qu'elle est également membre de l'Association humaniste du Québec. Bonjour Andrea, et merci infiniment d'avoir accepté notre invitation.
J'en suis honorée. Merci à vous, M. Pion, et merci aussi à l'Association des humanistes, de qui j'ai beaucoup reçu.
Alors, commençons par le commencement. En prévision de notre rencontre, j'ai relu « Femmes après le cloître » pour me préparer à notre rencontre, et un des éléments qui m'a frappé, surtout au début du livre, c'est cette recherche, ce besoin quasi insatiable de spiritualité que, à l'époque, vous associez au symbole de Jésus et de la religion catholique. Puis, au fil des années, vous avez graduellement abandonné et remis en question cette approche. Est-ce qu'il y a un élément ou un événement particulier qui vous a amené à faire ce cheminement qui a dû être très difficile?
Ce besoin de spiritualité relève d'abord de l'endoctrinement reçu. On nous présentait l'état religieux comme étant supérieur à l'état laïque. L'idéaliste que j'étais, par ailleurs, et par ailleurs, les matières scolaires que je n'aimais pas, a fait en sorte que, dans ma naïveté, j'ai plongé dans la soupape de l'illusion. Ma sortie du couvent, en 1972, j'ai rencontré un psychologue pour voir à mon orientation nouvelle de vie, et il m'a dit que mon besoin de spiritualité relevait de ce que je serais, que je suis une intellectuelle qui n'est pas capable de se contenter de la routine, par exemple, ou quelque chose de superficiel, qui a besoin d'aller plus en profondeur. C'est de là, d'ailleurs, d'où vient ma préconisation pour une spiritualité laïque. Concernant l'événement, oui, il y a eu un événement là, vraiment traumatisant, qui m'a bouleversé. C'est le suicide de Sœur Fébronie, qui avait un amour avec un prêtre, l'aumônier. Et cela a été vu à l'époque comme un scandale. Les supérieurs ont décidé, pour la séparer de lui, de l'envoyer dans un autre pays, ce qu'elle n'a pas accepté, et elle s'est suicidée. Bouleversée, je ne pouvais retrouver ma paix intérieure, et face à nos activités cédulées du matin au soir, et du soir au matin, dirais-je, je n'avais pas le temps de réfléchir. Alors, c'est pour ça mon désir a été de passer chez les Carmélites cloîtrés, là où on avait le temps de contempler, donc le temps de réfléchir aussi pour retrouver ma paix. Et évidemment, les supérieurs ne voulaient pas, mais finalement, j'ai réussi à y aller. Et une fois rendu chez les Carmélites, ce qui m'a sauté aux yeux, c'est l'absurdité, allant jusqu'à des folies, de règlements imposés et de coutumes, comme par exemple parce que nous avons couru dans les escaliers, la pénitence était de baiser les pieds des sœurs autour de la table, en dessous de la table, pendant leur repas. Des folies comme ça. Là. Et puis, alors c'est ce qui m'a amené, si vous voulez, à sortir de la communauté lorsque j'étais chez Carmélite, mais aussi mes parents qui m'ont fait réfléchir, parce que mon père et ma mère sont venus me voir. Et ils m'ont dit, Andrea, on n'accepte pas que tu sois ici. Bon, ton père n'accepte pas du tout, parce que tu es là comme dans une prison. On vient te voir à travers un grillage. On n'a même pas le droit de t'embrasser, nous, tes parents. Ça aussi, là, c'est un autre élément déclencheur qui m'a fait réfléchir, qui a fait en sorte que j'ai pris la décision de sortir. Voilà.
Pendant qu'on est sur ce sujet-là, moi, ça m'a surpris aussi beaucoup l'attitude de vos parents, dont d'ailleurs vous en parlez à plusieurs reprises à l'intérieur du livre. Vos parents étaient, de ce que j'ai cru comprendre, et là vous me corrigerez si je me trompe, mais je ne pense pas de me tromper, n'étaient pas pour votre idée de vous engager dans la vie religieuse. Et ça fait contraste, je vous dirais, ça fait contraste avec l'idée du temps où les parents se faisaient, que les parents catholiques en tout cas, se faisaient une gloire d'avoir un de leurs enfants dans la prêtrise ou comme religieuse. Est-ce que vous pensez que c'est un facteur important dans votre remise en question?
Oui, tout à fait, c'est très important. Mon père m'a dit ceci, donc je me suis souvenu à ma sortie. Je n'ai pas besoin d'aller au couvent pour faire du bien dans le monde. On peut faire du bien dans le monde, et ma mère était d'accord. Il ne voulait absolument pas. Or, il est allé même voir le curé de la paroisse pour qu'il me décourage d'y aller. Et le curé lui a répondu, « Monsieur Richard, si vous ne laissez pas votre fille y aller, elle peut tourner mal, aller en enfer, et vous aussi, vous irez en enfer. » Vous voyez, là, on menait les gens par la peur. Alors, à cet effet, mon père a cédé, quoi. Il m'a laissé entrer. Voilà.
Alors, poursuivons. Dans votre livre « Au-delà de la religion », dont le sous-titre est « Pour une spiritualité laïque en mouvement », vous prenez le temps de relever ce que vous appelez les aberrations souvent subtiles des religions. Vous en avez donné un petit aperçu, mais il y a encore beaucoup de gens qui associent la spiritualité avec la foi en une religion ou avec Dieu et qui ne peuvent concevoir une spiritualité autrement. Vous répondez quoi à ces personnes?
La religion n'a rien à voir avec la spiritualité. Parce que la religion est fondée sur des dogmes mensongers et une doctrine erronée. D'ailleurs, le mot spirituel vient du mot spirit, qui vient du mot en anglais l'âme, qui anime la pensée, qui prend le temps de réfléchir, de contempler, d'approfondir. Et la soi-disant religion, spiritualité des religions est basée sur le sacrifice, sur la mort, sur la pénitence en vue de gagner un ciel et d'éviter un enfer. Alors que la spiritualité laïque que j'apporte est basée sur la vie humaine, sur le concret, sur la réalité, sur l'humanité.
Très bien. Juste pour situer les gens qui nous écoutent, à ce moment-ci, est-ce que vous croyez encore en l'existence d'un Dieu créateur de l'univers et de l'être humain?
Je ne crois pas du tout en Dieu. À ma sortie du couvent, dans l'avion, en revenant au Canada, la question m'a effleurée, et si Dieu n'existait pas? C'est resté là. Puis plusieurs années plus tard, la question m'est venue, mais est-ce qu'un Dieu peut se créer par lui-même? Non. Donc, depuis lors, je n'y crois vraiment pas, mais pas du tout. Je pense que la nature se crée et se récrée d'elle-même. Et je préfère, comme les humanistes, référer à la science que référer à la Bible. D'ailleurs, deux grands historiens français, Gérard Mordillat et Jérôme Prieur, qui ont fait quand même 5 années d'études de la Bible et des lieux dits saints, on arrive à la conclusion que la Bible, c'est de la fabrication, ainsi pour les religions. Et comme humaniste, je préfère, comme les humanistes, référer à la science plutôt que référer à la Bible.
D'accord. Je vais citer le prologue d'un autre de vos livres, « Le sens de la vie », que j'encouragerais tous les humanistes à lire au moins une fois. Dans le prologue, vous écrivez, et je cite, « Il faut chercher un sens à sa vie. » On entend et lit souvent cette phrase, tellement qu'elle est devenue presque un slogan. Elle laisse supposer que la vie ne possède pas en elle-même son propre sens. Or, ce sens, on le cherche, alors que par essence, il existe déjà en soi-même, prêt à se laisser découvrir et comprendre. Je désire partager une façon de faire cette découverte et aussi de jouir du sens, du grand sens, de la vie elle-même. Ce n'est surtout pas l'espérance d'un ciel à gagner que je veux transmettre, ni même celui du bonheur, quoique il puisse en découler. Je souhaite donc, ce livre n'a pas d'autre but, aider à connaître le sens de la vie dans l'accomplissement de soi. Fin de la citation. Alors, pour un humaniste comme moi, un passage comme celui-ci, c'est de la musique à mes oreilles. Quel conseil vous donneriez à ceux qui vous écoutent et qui cherchent un sens à leur existence?
Mais il y a beaucoup à dire sur le sujet, c'est pourquoi je l'ai développé dans mon livre le sens de la vie. Mais nous sommes dans un siècle de vitesse, on court, on suit, on s'active, quelquefois même comme des robots. Alors ce qui est important, c'est de prendre le temps d'être, à soi-même, aux autres, aux événements, à la nature, et avec nos sens internes et externes, par exemple la vue, la contemplation, prendre le temps de regarder, de contempler, le goût, savourer, le plaisir, une amitié. Bref, si on prend pas le temps pour cela, et on risque de passer à côté du cheminement pour l'accomplissement de soi.
Comme plusieurs de nos auditeurs le savent, je pense, vous militez depuis longtemps pour un Québec laïque. Vous êtes aussi en faveur de la loi 21 qui a été promulguée par le gouvernement québécois. Plusieurs y voient une attaque contre les religions. Alors, que répondez-vous aux gens qui font cette accusation?
Non seulement c'est pas une attaque aux religions, c'est se donner un instrument de paix et d'unité. Parce que les religions divisent. C'est de la fermentation pour les guerres, alors que laïcité unit. L'histoire le prouve.
Je présume également que vous êtes en faveur du retrait du cours ECR dans sa forme actuelle. Si la décision vous revenait, vous la remplaceriez par quoi?
Par la philosophie, évidemment. J'ai lu Edgar Morin, qui a écrit, c'est un grand philosophe, qui a écrit le livre Une tête bien faite. Et dans son livre, il fait part d'une école de philosophie pour les jeunes en France, qui se fait dans des cafés, pour vraiment réfléchir sur les actualités, les événements, les pensées, trouver des solutions. Et c'est ce qui m'a inspiré et que j'ai suggéré dans mon mémoire présenté à l'Assemblée nationale. Et aussi, j'ai suggéré d'apprendre aux jeunes à devenir un bon citoyen, ce qui est important pour l'avenir de la société.
Ben justement, dans votre livre « L'essence de la vie », j'y reviens encore, vous consacrez un chapitre sur l'apprentissage de la philosophie. Il semble que l'abolition du cours ECR, comme vous le dites, ce serait justement une bonne occasion d'introduire la philosophie aux élèves du primaire, pardon, et des niveaux subséquents. Est-ce que vous croyez que ce serait une bonne idée?
Bien sûr, c'est une bonne idée. Non seulement c'est une bonne idée, j'ai pris l'initiative, si vous voulez, pour faire la relance. Demandons qu'on enlève le cours de religion dans les écoles. J'ai pour cela, l'union fait la force. J'ai donc invité le PDF Québec pour les droits des femmes du Québec, l'Association des humanistes ainsi que le mouvement laïque québécois se joindre à moi. Et j'ai planifié des rencontres avec les élus politiques que nous avons rencontrés, dont Jean-François Roberge, qui était porte-parole pour l'éducation, et qui nous a donné raison, il l'avait constaté lui-même au primaire. Et au secondaire, il nous a promis d'y voir ce qu'il a fait, il a tenu parole. Et j'ai aussi pris l'initiative d'une pétition qui a été signée par plus de 5000 personnes. Et Jean-François Lisée, que j'ai rencontré, a accepté de la présenter à l'Assemblée nationale. Le fait est que la décision est prise, ce cours va être enlevé. Donc, pour moi, là, c'est vraiment la victoire du combat de ma vie.
Très bien. On va revenir, si vous voulez, à la loi 21. Il y a une question que je voulais vous poser. On sait qu'il y a énormément de résistance, et surtout sur l'obligation qui est faite aux employés du gouvernement en position d'autorité, y compris les enseignants, de porter des signes religieux ostentatoires. Le groupe qui manifeste le plus leur désaccord sont les femmes de foi musulmane qui portent le voile. Par ailleurs, et en passant, il y a de nombreuses femmes de foi musulmane là, qui ne portent pas de voile et n'en sont pas moins musulmanes. Est-ce que pour vous, cette obligation est justifiée, et si oui, pourquoi?
L'obligation est amplement justifiée, parce que, surtout au primaire, les enfants là, sont influençables. Moi, comme moi-même, je l'ai été, c'est une religieuse moi, qui m'a endoctrinée, et un prêtre. Or, l'enfant est porté à voir en l'enseignant, surtout parce qu'il est différent des autres, par un signe ostentatoire religieux, quelque chose comme un plus. Donc, qui donne confiance et qui invite à se confier. Et d'ailleurs, nous en avons la preuve parce qu'une enseignante au primaire, Mme Beauchara Shelby, en cours, a témoigné comme quoi des enfants se confient à elle, vous voyez, là. Et puis, une autre, Mme musulmane, une intégriste, parce que tous les musulmans ne sont pas intégristes ou islamistes, elle a fait part aux médias que sa motivation, là, ce n'était pas la religion. C'était en lien avec son obstination, des défis, ce qu'on voulait lui imposer. Vous voyez, là, un bel exemple pour les jeunes. Et puis, un autre élément aussi, c'est que moi, je trouve que en encourageant, en ne mettant pas, par exemple, la loi 21, ce serait faire passer les religions avant la laïcité. Et deuxièmement, ce serait encourager ces femmes à rester dans l'intégrisme religieux, alors qu'on devrait plutôt leur offrir les cours pour les aider à cheminer, les cours d'histoire, par exemple, des religions, pour les aider à cheminer et à comprendre pourquoi elles pourraient être libérées en enlevant ces signes ostentatoires et adopter les valeurs, nos valeurs québécoises, qui sont, selon moi, comme un progrès de société.
Et je suis d'accord. Alors, ben écoutez, merci beaucoup, Madame Richard, d'avoir pris le temps de nous parler. Pour ceux d'entre vous qui seraient intéressés à en savoir plus sur l'Association humaniste du Québec, vous pouvez visiter notre site web, qui est assohum.org, assohum.org, ou encore sur notre page Facebook. Vous pouvez aussi nous écrire à l'adresse courriel info@assohum.org. Merci, et nous vous donnons rendez-vous au prochain balado humaniste.